Chapitre 11. Quand il entendit des pas dehors, Richard détourna la tête de la silhouette inconsciente de Callan. Dès qu'Esther eut écarté la tenture, Henrik se glissa dans la pièce. Apercevant le sourcier, il lui sourit, mais sans pour autant parvenir à cacher son angoisse. Richard sourit aussi, sans tricher non plus sur ses sentiments les plus profonds. Merci d'être venu, Henrik. Assieds-toi près de moi. Henrik prit place à côté de Samy et du sourcier. Un long moment, ses yeux restèrent rivés sur Callan. Si elle n'était pas entrée dans la tanière de Jit pour le libérer, il n'en serait jamais sorti vivant.
La mère inquisitrice va se rétablir, seigneur Rall?
Je n'en sais rien. Pour l'instant, nous ignorons ce qu'elle a. Henrik, je compte sur toi pour tout me raconter et nous fournir de précieux indices.
Je ne sais pas grand-chose sur les maladies, mais, eh bien, je doute que vous puissiez la guérir.
Pourquoi dis-tu ça?
Parce que j'ai entendu Zed et Nietzsche en parler. Ils espéraient pouvoir vous maintenir tous les deux jusqu'à ce que vous soyez au palais du peuple.
Intrigué, Samy se pencha vers Henrik.
Le palais du peuple? Vraiment? Un palais? Ont-ils dit pourquoi?
Henrik acquiesça. Voyant que ce petit monde allait être plongé dans une grande conversation, Esther récupéra le seau d'eau et les pansements et approcha de Callan afin de soigner ses plaies. Richard leva une main pour empêcher Henrik de répondre à la question de Samy.
« Commençons par le début. Dis-moi tout ce qui s'est passé. Les moindres détails peuvent faire la différence. Tu ne t'en apercevras peut-être pas, mais moi oui, fais-moi confiance. »
Combien de fois Zed avait-il tenu un discours de ce genre à Richard? Le vieux sorcier était avide de détails. Décidément, la roue tournait d'une bien étrange façon. Aujourd'hui, c'était le sourcier qui insistait pour entendre ces fameux détails qu'il avait tendance à trouver superflus lorsque son grand-père les exigeait. Henrik écarta une mèche de cheveux de son front et se jeta à l'eau.
Pour commencer, la mère inquisitrice m'a libéré de la haie où la pitié silence m'avait emprisonné. Hélas, Jit l'a capturé à son tour et j'étais le seul à pouvoir fuir. Mais vous le savez déjà puisque vous m'avez vu sortir de la tanière de Jit. Vous m'avez dit que des amis à vous arriveraient bientôt du palais du peuple. Puis vous m'avez chargé d'aller leur dire où vous étiez, la mère inquisitrice et vous. J'ai continué à courir et peu de temps après, je suis tombé sur la colonne de cavalerie qui escortait Zed, Nietzsche et Kara. « Vos amis étaient pressés de vous trouver, seigneur. Je leur ai dit où vous étiez, en précisant que Jit tenait la mère inquisitrice et que vous alliez tenter de la sauver. Ensuite, j'ai montré le chemin à la colonne. Dans le repère de Jit, nous vous avons trouvés tous les deux. La pitié silence était morte, le corps comme déchiqueté de l'intérieur. Il y avait du sang partout, un horrible spectacle. Comme la mère inquisitrice, seigneur, vous étiez inconscient et vous saignez beaucoup. Kara et quelques soldats vous ont dégagé de la haie et de ses piquants. Puis tout le monde est sorti et Zed a incendié la tanière de la pitié silence. Voir un feu pareil dans un marécage, c'était, eh bien, très étonnant. Les flammes léchaient presque les nuages et il n'est rien resté du fief de Jit.
Voilà au moins une bonne nouvelle, dit Richard. La suite? Sourcil froncé, Henrik puisa dans ses souvenirs.
Les soldats vous ont déposé dans un chariot. Kara était folle de rage que la mère inquisitrice et vous soyez blessés. À un moment, j'ai cru qu'elle allait cracher du feu.
Je vois le spectacle d'ici, souffla Richard avec un petit sourire. Il se rembrunit en songeant au sort qui menaçait la mort de Sith et ses autres amis. Il devait les trouver sans tarder.
Continue. Nous sommes partis pour le palais du peuple. Dans le chariot, Zed et Nietzsche ont commencé à vous soigner. Le sorcier était très inquiet de vous voir dans un tel état. En vous examinant, seigneur, il a trouvé une boule de tissu dans chacune de vos oreilles. Nietzsche a fait la même découverte sur votre femme. « Pas étonnant qu'il soit en vie », a-t-elle soufflé. Zed a demandé des explications. « Le cri d'une pitié silence », a dit Nietzsche, « si elle parvient un jour à le pousser, est en fait celui du gardien en personne. Ce son entraîne dans le royaume des morts la pitié silence et tout ce qu'il entend en même temps qu'elle. Le cri d'une femme comme Jit est mortel, paraît-il, même pour elle. C'est pour ça que la mère d'une pitié silence lui coule les lèvres avant que sa voix soit assez puissante pour semer la destruction et la mort. Si j'ai bien compris, les fils de cuir sont imprégnés d'une magie qui emprisonne la mort dans le corps de la pitié silence. Selon Nietzsche, en étouffant le cri de Jit, les boules de tissu vous ont sauvé la vie. Quand Zed a demandé d'où elle tenait tout ça, votre amie lui a rappelé qu'elle a longtemps été une sœur de l'obscurité au service du gardien. Elle a ajouté que les pitié silence sont des créatures maléfiques dont le pouvoir est directement lié au royaume des morts. Ce pouvoir, toujours selon Nietzsche, est une perversion de la grâce et ne peut donc pas être affecté par les détenteurs du don. Face à une pitié silence, votre magie, Seigneur Hall, ne servait à rien. Même chose pour celle de la mère inquisitrice. Quand Jit a crié, vous n'avez pas simplement été touché par sa magie maléfique, ce qui aurait déjà été grave, mais aussi et surtout par son hurlement si particulier. Pour résumer, c'est la mort elle-même qui vous a frappé, puis infecté. Sammy regarda le sourcier comme pour lui lancer « Je vous l'avais bien dit ». Richard fit signe à Henrik de continuer. Jen n'a pas vraiment cru ce que disait Nietzsche au sujet de ce cri né au cœur du royaume des morts. Il douta aussi que vous ayez été infecté. « Un air qui me semble connu », marmonna Sammy. Richard lui coula un regard de biais, mais il ne fit pas de commentaire. Absorbé par son récit, Henrik n'entendit pas la saillie. Nietzsche a posé deux doigts sur la tempe de Callan, puis elle a invité le vieux sorcier à vérifier par lui-même. Il l'a fait et a reconnu que vous étiez tous les deux souillés par une obscurité terrifiante. « L'effet du cri de la pitié silence », a répété Nietzsche. « Et cette souillure, c'était tout simplement la mort. »«
Exactement ce que j'ai dit !»
fit Sammy. Cette fois, elle n'avait pas pu s'empêcher de triompher à voix haute.
« Je reconnais que tu avais raison. » concéda Richard.
La jeune magicienne sourit.
Zed a été bouleversé par ce qu'il a senti en Callan. Kara aussi s'est inquiétée, craignant que vous soyez condamné à mort. Mais Nietzsche a affirmé que non, à condition qu'on la laisse intervenir. Elle a supposé que vous aviez coupé les fines lanières de cuir qui fermaient la bouche de Jit. Grâce aux boules de tissu dans vos oreilles, Callan et vous aviez survécu, mais en étant quand même souillés.
Cette Nietzsche a-t-elle dit comment elle comptait guérir le seigneur Hall et sa femme ?
Demanda Sammy, soudain tout excitée à l'idée d'obtenir peut-être la solution de l'énigme.
Non, elle a simplement dit que c'était à sa portée, mais qu'elle devait intervenir à l'intérieur d'un champ de protection.
Richard eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Être soigné par une personne possédant le don ne serait pas suffisant. Callan et lui n'étaient pas banalement blessés. Pour les débarrasser de la véritable menace, il allait falloir beaucoup plus qu'une simple séance de magie thérapeutique.
« Un champ de protection ?»
répéta Sammy, le nez plissé.
« De quoi s'agit-il »
Henrik haussa les épaules pour signifier qu'il n'en savait rien.
« C'est un champ de force qui crée une zone interdite à toute forme de magie étrangère, »
expliqua Richard. Une précaution indispensable quand on travaille sur des sortilèges dangereux ou quand on se contente de les étudier. En même temps, cette protection interdit toute fuite d'éléments destructeurs, que ce soit à cause d'un accident ou d'une intention malveillante. Bref, la contention fonctionne dans les deux sens.
Sammy parut déconcerté par cette description.
Et comment pouvons-nous obtenir une telle protection? Est-il possible de la générer?
C'est une très ancienne magie inaccessible aujourd'hui, j'en ai peur. Les seules zones protégées que je connais datent de milliers d'années.
Il y en a une au palais du peuple,
dit Henrik.
Exact, confirma Richard. Le jardin de la vie.
Henrik se concentra de nouveau sur ses souvenirs.
Nietzsche a expliqué à Zed qu'elle aurait besoin d'un champ de protection afin de vous isoler, votre femme et vous, pendant qu'elle vous débarrasserait de la souillure. L'empreinte de la mort, en somme. La grâce étant corrompue en vous, toute intervention hors d'un champ de protection attirerait le gardien, qui viendrait vous emporter sans qu'il soit possible de l'en empêcher. En revanche, Nietzsche entendait guérir toutes vos blessures normales afin de vous maintenir en vie jusqu'au palais. À l'entendre, c'était la priorité des priorités.
« J'aimerais t'en voir un palais, »
murmura Sammy, son imagination enflammée par tant d'exotiques évocations.
« Ce doit être merveilleux. Ma mère ne m'a jamais parlé de ces champs de protection. À quoi ressemble-t-il ?
Eh bien, celui du palais est un magnifique jardin intérieur avec un toit de verre et...
Un toit de verre, Seigneur ?
S'exclama Samy.
Je n'ai même jamais rêvé d'une telle chose. Je donnerais cher pour voir ça.
Un jour, tu auras peut-être cette chance. Richard se tourna vers Henrik. La suite ?
Zed a dit qu'il fallait atteindre au plus vite le palais, vu votre état. Puis il a examiné la blessure de Callan sur son ventre. Avec les chaos du chariot, la plaie s'était rouverte et saignait beaucoup. Pendant que le vieil homme s'occupait de votre épouse, Nietzsche s'est chargé de soigner vos blessures. Rassuré parce qu'on vous avait pris en charge, Kara est allée s'asseoir sur le siège du conducteur à côté de son mari, le général Meffert, qui avait décidé de remplacer le cocher. Pendant que Nietzsche et Zed travaillaient, elle m'a hissé là-haut afin que je m'installe près d'elle.
Pourquoi n'ont-ils pas fini de nous guérir ? Demanda Richard. Que s'est-il passé ? Henrik se rembrunit. À l'évidence, il n'avait aucune envie de raconter cette partie-là de l'histoire.